bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Bonjour. Les Émirats arabes unis et Israël doivent signer d'ici 3 semaines à Washington un accord historique de normalisation de leurs relations, même si les lectures divergent sur le projet israélien d'annexion de territoire palestinien. Le secrétaire général des Nations Unies a dit jeudi espérer une relance significative de négociations de paix entre Israël et les Palestiniens, qui ont toutefois immédiatement dénoncé cet accord. Nous y reviendrons dans un instant. En Côte d'Ivoire, au moins 4 personnes sont mortes mercredi et jeudi dans des violences liées à la candidature controversée en 3e mandat du président Alassane Ouattara. Nous y reviendrons également. Des experts de l'ONU accusent de hauts responsables maliens de l'armée et des services de renseignement de compromettre l'application de l'accord de paix d'Alger en dépit d'appels pressants de la communauté internationale pour résoudre la crise. C'est ce qui ressort d'un rapport non encore rendu public remis au Conseil de sécurité de l'ONU le 7 août, selon l'AFP, qui dit avoir pris connaissance de ce rapport ce vendredi. Le Mali fait face depuis plusieurs mois à une nouvelle contestation politique majeure. Au Niger, un drone américain s'est à nouveau écrasé près d'Agadez, dans le nord du pays, à raison d'une défaillance mécanique et non d'une action hostile, a précisé jeudi à l'AFP, le commandement de l'armée américaine en Afrique. Ces drones armés sont destinés à la lutte contre les groupes djihadistes dans la bande sahélienne. Au Cameroun, le gouvernement s'est offusqué jeudi de la recrudescence d'actes de barbarie et d'horreur des séparatistes anglophones après 2 meurtres attribués aux indépendantistes dans l'ouest du pays. Ces meurtres, dont la décapitation d'une jeune femme à Muyuka, ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. En République démocratique du Congo, au moins 4 personnes, dont une adolescente, ont été tuées dans une embuscade tendue à un groupe de jeunes dans la région de Beni, l'un des principaux foyers de violence de l'est du pays. Après quelques jours d'accalmie, les ADF ont été accusés d'être responsables de la tuerie qui a eu lieu dans le village de Makele, situé à 10 kilomètres d'Oicha. Le Maroc fait face à une hausse des infections au nouveau coronavirus avec plus de 1000 cas enregistrés quotidiennement depuis quelques jours. L'OMS en mise en garde jeudi contre cette tendance à la hausse. Par ailleurs, la directrice régionale de l'OMS, Machi Dissot-Moéti, a affirmé jeudi que les mesures de réouverture des économies africaines vont entraîner une hausse des cas de coronavirus, mais cette croissance ne devrait pas être exponentielle. L'Afrique, bien moins touchée que les autres continents avec officiellement quelques 24 000 décès, a franchi la semaine dernière le seuil du million de cas enregistrés. Le seuil des 750 000 morts du COVID-19 dans le monde a été franchi jeudi et l'inquiétude persiste face à une résurgence de la maladie, poussant de nombreux pays à imposer de nouvelles restrictions pour limiter sa propagation. Paris a promu une mesure de réciprocité après la décision de Londres de soumettre à partir de samedi à une quarantaine de 2 semaines les personnes en provenance de France. Il y a un total de presque 20,7 millions de cas de coronavirus dans le monde, selon l'AFP. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé, avec plus de 166 000 décès, devant le Brésil, 105 463, le Mexique, 55 293 et l'Inde, 47 43. Ici, à Washington, l'administration Trump a assuré jeudi que si un vaccin expérimental faisait ses preuves, il serait distribué gratuitement aux Américains. Les autorités afghanes ont commencé à libérer les 400 prisonniers talibans dont la libération doit permettre le début des négociations de paix. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle de novembre, a appelé le gouvernement, les gouverneurs des 50 États à instaurer dès maintenant l'obligation de porter le masque, ce à quoi s'oppose Trump. La suite de nos informations. En Côte d'Ivoire, au moins 4 personnes sont mortes dans des violences liées à la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Un jeune de 18 ans a été tué jeudi dans des heurts avec les forces de l'ordre à Bonois, dont le commissariat a été saccagé. La situation a été tendue dans cette ville que traverse la route reliant Abidjan au Ghana. Des violences ont aussi éclaté à Daoukro, bastion de l'ancien président Henri Kona Bédier, candidat à la présidentielle. Des témoins ont aussi fait état de 3 morts lors d'affrontements entre des partisans d'Henri Kona Bédier et des jeunes favorables à Ouattara. D'autres heurts ont eu lieu jeudi entre manifestants et forces de l'ordre à Abidjan. Les autorités avaient interdit les manifestations. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010, puis réélu en 2015, avait annoncé en mars qu'il n'allait pas se présenter, passant le relais à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui meurt le 8 juillet. Après ce décès, Alassane Ouattara annonce le 6 août qu'il va briguer un troisième mandat. La Constitution limite les mandats présidentiels à 2. Mais pour les partisans de Ouattara, la réforme adoptée en 2016 a remis le compteur à 0. Ses adversaires jugent illégal une troisième candidature.
Des experts congolais et zambiens ont interrompu jeudi les pourparlers à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, au sujet d'un conflit frontalier. Acceptant de les reprendre le 1er septembre, Eddie Isango.
En présence des ministres de l'Intérieur et de la Défense de deux pays, les experts ont déclaré qu'ils soutenaient une résolution à l'amiable et du différend, même en ajournant les pourparlers qui devaient avoir lieu jusqu'à samedi. À la mi-mars, des soldats zambiens ont occupé 2 villages de la province du Tanganyika en RDC. Il y a eu des affrontements faisant un soldat tué de chaque côté. Un traité signé en 1999 par la RDC et la Zambie a résolu un différend hérité de l'époque coloniale sur la délimitation des frontières entre les lacs Mwero et les lacs Tanganyika sur une distance d'environ 200 km. Malgré tout, des affrontements entre les deux pays ont eu lieu au moins 3 fois depuis 1996. La zone contestée est facilement accessible du côté zambien, mais du côté congolais, l'accès est rendu difficile par un marais.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité jeudi de la normalisation des relations entre l'État hébreu et les Émirats arabes unis. Pour lui, une nouvelle ère commence dans les relations entre Israël et le monde arabe. Le point avec Nanit Talani.
Monsieur Netanyahou a déclaré avoir eu une discussion trilatérale avec le président américain Donald Trump et le cheikh émirati Ben Zayed. Les 3 hommes ont convenu d'un accord de paix complet avec des échanges d'ambassadeurs et des échanges commerciaux, y compris des vols directs entre Abu Dhabi et Tel Aviv. Les Émirats vont investir des sommes importantes en Israël. Il s'agit d'une ouverture pour la paix dans la région, a affirmé le premier ministre israélien, se félicitant de ce troisième accord de paix avec un pays arabe après l'Égypte et la Jordanie. Cette normalisation faisait partie du plan de Trump pour le Proche-Orient, qui prévoyait aussi l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des colonies juives en Cisjordanie occupée, un projet décrié par les Palestiniens. Pour le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, la normalisation des relations entre Abu Dhabi et Tel Aviv ne sert pas la cause palestinienne et constitue un chèque en blanc pour la poursuite de l'occupation par l'État hébreu.
La Minute Echo, John Linden.
La conférence des chefs d'État de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a renouvelé le mandat des 6 ans pour Thiemoko Moelith Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il avait été porté à la tête de l'institution pour la première fois en 2011 et reconduit en 2014 pour un mandat des 6 ans.
Les sociétés pétrolières du sud-est de la République démocratique du Congo ont levé leur grève de 6 jours pour exiger la révision à la hausse du prix du litre à la pompe. C'est ce qu'a annoncé Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo. La ministre de l'Économie a publié une nouvelle tarification du prix du litre à la pompe qui passe de 1390 francs congolais à 1820 francs congolais dans le sud de la RDC. Les nouvelles inscriptions au chômage ont baissé aux États-Unis, passant sous la barre du million pour la première fois depuis le mois de mars, selon les chiffres publiés jeudi par le département du travail. Quelques 963 000 personnes se sont inscrites au chômage entre le 2 et le 8 août, en baisse par rapport aux 1,19 million de la semaine précédente.
Les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le Sénégalais Idrissa Gana Gueye et le Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting du Paris Saint-Germain connaissent leur adversaire des demi-finales de la Ligue des Champions. Il s'agira des Allemands du RB Leipzig, vainqueur surprise hier de l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey 2-1. Cette qualification est historique pour les Allemands qui rejoignent le carré d'as de la Coupe aux grandes oreilles pour la première fois de leur histoire. Ce soir, toujours en quart de finale, le Bayern Munich fera face au FC Barcelone. Justement, le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, est furieux contre l'un des entraîneurs de jeunes du club, dont les propos présumés racistes sur un réseau social ont entraîné l'ouverture d'une enquête de la police munichoise. Ces propos ne correspondent absolument pas aux valeurs que le club défend, a fulminé Rummenigge, qui a promis que cet incident aurait des conséquences. Mardi, une télévision régionale a révélé le contenu d'une discussion en ligne d'un entraîneur d'une des sections de jeunes dont le nom n'a pas été révélé. L'homme y tenait des propos à connotation raciste. Le suspect a d'abord assuré que ces extraits étaient des faux avant d'admettre qu'il était bien l'auteur des messages mis en cause, selon le quotidien Bild. L'international français Blaise Matuidi va rejoindre l'Inter Miami et le championnat américain de football. L'annonce a été faite par le club floridien. Matuidi, 33 ans, a annoncé mercredi son départ de la Juventus Turin. Il va retrouver à Miami David Beckham, son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain et l'un des copropriétaires du club qui fait ses débuts en MLS cette saison. On reste ici aux États-Unis pour parler de la NBA dont le tableau des playoffs est connu. À l'Est, Milwaukee fera face à Orlando et Toronto affrontera Brooklyn. Boston sera opposé à Philadelphie et Miami à Indiana. À l'Ouest, les Los Angeles Lakers attendent toujours de connaître leur adversaire. Leurs rivaux des Clippers joueront contre Dallas. À suivre dans les deux autres oppositions, Denver-Utah et Oklahoma City-Houston, le premier tour des playoffs se dispute au meilleur des 7 matchs. La première équipe avec 4 victoires étant qualifiée pour le tour suivant. Par ailleurs, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a estimé que les messages contre l'injustice raciale et l'activisme dont font preuve la Ligue et les joueurs depuis la reprise de la saison sont inévitables et constituent la bonne chose à faire. Entre genoux posés au sol pendant l'hymne national, prise de parole pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, dont les mots sont peints sur les parquets, slogans et messages affichés sur les maillots, le monde du basket américain s'est montré proactif sur le terrain de la contestation des injustices raciales.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal Canal.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Congo-Brazzaville célèbre demain samedi le 60e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, plusieurs acteurs de la vie du Congo font le point des actions posées durant ces 60 dernières années et essaient de se projeter vers l'avenir. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Pendant 60 ans, l'action politique a largement influencé la vie du pays. Par exemple, l'accession au pouvoir de différents présidents a occasionné des violences politiques. L'universitaire Vivien Manangu, qui est constitutionnaliste, explique pourquoi pendant longtemps, les constitutions n'ont pas été respectées.
Ce sont les acteurs politiques qui appliquent la Constitution. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait toujours de la violence dans l'accession au pouvoir. Dès le départ de l'indépendance du Congo, la violence est inscrite dans les phénomènes politiques. Et la Constitution n'a pas été capable de régler ce problème-là.
En 60 ans d'indépendance, la culture est demeurée parent pauvre dans toutes les initiatives de développement au Congo. L'ancien commissaire général du FESPAM, Festival panafricain de musique, Hugo Ndai, par ailleurs opérateur culturel, fait le point.
Culturellement parlant, le Congo se cherche. Le potentiel est là. Donc, l'on change de paradigme pour aller vers une autre approche. Et qui consisterait à placer la culture quand même au cœur des préoccupations et au cœur du développement de notre pays.
L'économie aurait été, durant ces 60 dernières années, impactée soit par des choix politiques, soit par la qualité de la dépense. Le statisticien et ancien ministre Clément Mirassa tire les leçons de cette gouvernance économique.
Et si nous avons fait partir le président Youlou en 1963 sous le prétexte de la corruption, aujourd'hui elle atteint un niveau intolérable et inacceptable. Il est difficile de rechercher le développement et de tolérer la corruption.
Pour l'ancien ministre des zones économiques spéciales Alain Akwala, il y a bien du bon dans tout cela. Des expériences qu'il faut capitaliser dès la prochaine décennie.
Eh bien, je crois que pour ce 21e siècle et les 60 prochaines années, le Congo peut engager un projet que je considère extraordinairement fédérateur et réalisable, c'est la construction d'un canal Congo-Océan qui relierait le fleuve Congo à l'océan Atlantique. Ça permettra non seulement à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui d'avoir une espèce de vision positive de l'avenir, susciter une espèce d'espoir par rapport à l'avenir, pour qu'ils aient le sentiment que le pays va vers une nouvelle direction.
Et l'historien Théophile Obenga estime qu'il est temps de lancer le pays vers le développement.
Il faut lancer le pays par des grands projets extrêmement grands, plus grands que nous, et non faire des petits points qui n'avancent pas.
Ce soir, le président Denis Sassou Nguesso s'adressera à la nation. Demain samedi, une courte cérémonie, mais particulière, sera organisée pour célébrer les 60 ans de l'indépendance de la République du Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Guinée, au moment où le président Alpha Condé est réclamé par son parti pour être son candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain, des voix s'élèvent au sein de l'opposition pour dénoncer, je cite, « les manquements de la Guinée en matière institutionnelle ». Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
C'est une plainte déposée par une partie de l'opposition guinéenne, membre du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Les plaignants ont saisi le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, afin de dénoncer ce qu'ils considèrent comme des manquements de la Guinée en matière institutionnelle. L'opposant Baouri explique.
Vous savez que la Guinée a violé parfaitement les dispositions d'intangibilité de la Constitution de 2010 pour imposer un changement anticonstitutionnel. Ensuite, le texte qui a été proposé pour le référendum du 22 mars a été aussi changé après le référendum au profit d'un texte qui a été acté comme étant la Constitution par la Cour constitutionnelle, sans pour autant avoir été au préalable présenté à la population. Donc tout cela, ce sont des vices de forme extrêmement graves qui font que la Guinée est en dehors des dynamiques de convergence constitutionnelle que le protocole additionnel de la CEDEAO, de bonne gouvernance, a mis en place.
Pour ce Guinéen, les opposants sont dans leur droit de défendre la Constitution de 2010.
Bon, je pense que c'est normal pour le FNDC, n'est-ce pas, de se plaindre et plus loin de saisir la Cour, la CEDEAO, pour ce délit qu'il reproche au gouvernement guinéen. Ça serait très scandaleux si cela est avéré, que le pays ait deux constitutions différentes, en plus de celle que ce FNDC d'ailleurs défend.
Le 22 mars dernier, la Guinée a organisé un référendum constitutionnel qui aboutit à l'adoption d'une nouvelle constitution qui n'interdit pas au président Alpha Condé de se représenter. Selon Cabinet Fofana, analyste politique, cette plainte a tout son sens.
Il s'agit dans la plainte du FNDC d'expliquer que Alpha Condé entrait en fait dans l'objectif de changer la constitution, d'aller vers une nouvelle candidature, donc un nouveau mandat. Et il y a un certain nombre de lois au niveau de la sous-région, notamment le protocole additionnel de la CEDEAO et d'autres législations qui régissent un peu et qui bannissent l'idée des nouvelles constitutions pour l'objectif de se tenir au pouvoir. Donc c'est là où cela va jouer. C'est-à-dire que le FNDC va démontrer que le président Alpha Condé est en train en réalité de partir à porte-à-faux d'une législation ou des traités auxquels notre pays a souscrit.
Le président Alpha Condé a été choisi il y a quelques jours par son parti candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre. Sa réponse est attendue, mais déjà certaines personnalités se sont déclarées candidates à la prochaine élection présidentielle. C'est le cas de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Makali Camara. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Mozambique, des djihadistes se sont emparés mercredi de Mocimboa da Praia, dans le nord du pays, selon un site d'information local. Un port stratégique dans cette région riche en gaz qui a subi une série d'attaques récemment. Le port de Mocimboa da Praia, situé dans la province de Cabo Delgado, se trouve à environ 80 km au sud de la péninsule d'Afungi qui abrite d'importantes installations pour le développement de gaz naturel liquéfié, l'un des plus gros investissements en Afrique auquel participe le groupe français Total. Claire Morin-Gibourg a joint Éric Maurier-Genoux, chercheur sur le Mozambique depuis 25 ans et professeur d'histoire africaine.
Depuis plusieurs jours, les insurgés, connus sous le nom de Al-Shabaab, qui sont donc alliés à l'État islamique, avaient l'ambition de contrôler la ville et donc étaient en train de combattre avec le gouvernement pour la saisie de la ville. Et le mercredi 12 août, ils ont réussi à s'approcher du port et les troupes spéciales de l'armée qui étaient dans le port se sont retirées. C'était donc la chute de la ville de Mocimboa da Praia.
Est-ce que la prise du port a été confirmée par les autorités mozambicaines ?
Les autorités mozambicaines se sont prononcées jeudi après-midi et ont nié en bloc que la ville soit tombée. Ils disent qu'ils sont en contrôle de la situation et que tout va très bien, en fait. Donc, dans le déni absolu, ce qui est étonnant dans la mesure où plusieurs sources se sont prononcées, la majorité des journaux nationaux comme internationaux, avait parlé à des gens sur le terrain qui confirmaient donc bien que non seulement la ville était tombée, mais le port était bien tombé.
Est-ce que ces djihadistes ont des revendications et que pensez-vous qu'ils veulent faire de ce port ?
Alors les terroristes ont l'ambition de contrôler une partie du territoire et leur but est de substituer l'état séculier qui existe au Mozambique pour en avoir un état qui serait régi par la loi islamique, par la charia. Ils avaient commencé par faire cela en fonctionnant comme secte, en séparant de la société, en fonctionnant dans leurs propres institutions. Ça n'a pas marché, donc ils ont passé à l'action armée pour changer l'état. Et donc leur déclaration, semble-t-il, quelques jours avant l'attaque, c'est d'avoir parlé à la population, d'avoir dit qu'ils devaient quitter la ville car ils comptaient la contrôler, qu'ils comptaient en faire la capitale de leur état ou le début de leur état en fait dans la région. Donc l'idée, j'imagine, serait de contrôler la ville et ensuite d'essayer de construire un état aux alentours, ce qui, je pense, ne se fera pas si facilement, mais c'est leur ambition.
Et il faut quand même rappeler que c'est un port stratégique d'une zone extrêmement riche en gaz.
Le port de Mocimo da Praia est à 80 km de la ville de Palma, qui est le cœur du développement de cette industrie du gaz liquéfié. D'énormes ressources ont été découvertes et qui sont en préparation d'exploitation par la compagnie Total, Exxon et Eni, les trois principales entreprises, et qui est un investissement de centaines de milliards, vraiment énorme. Et le port est important d'une part pour la logistique, pour le transport. La principale route passe par cette ville de Mocimo da Praia, mais c'est aussi un endroit important en relation militairement. C'est-à-dire qu'il contrôle la zone qui est l'arrière-pays, si vous voulez, de Mocimo da Praia jusqu'à Palma. Et le gouvernement mozambicain avait renforcé la ville pour en faire sa base, si vous voulez, opérationnelle.
Éric Morier-Genou, professeur d'histoire africaine à l'Université Queen de Belfast.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La pandémie de COVID-19 a mis à mal les finances de dizaines de millions de ménages américains qui peinent à payer leur loyer. Selon des données du Bureau du recensement, environ 30% des Américains disent avoir peu confiance à leur capacité à payer le loyer du mois suivant. Au moins 40 millions de personnes courent le risque d'être expulsées, estime l'Institut Aspen. Pour connaître l'impact sur les communautés d'origine africaine, Eric Manirakiza a joint à New York notre confrère Dam Babou.
Bon, il faut dire que la pandémie a eu un impact colossal sur les activités professionnelles de la communauté africaine ici à New York et dans la côte Est en général, parce que vous pouvez retenir 4 activités qui sont essentiellement celles que les Africains pratiquaient. D'abord, c'est les chauffeurs de taxi. Ça, c'est important. Et vous savez qu'avec la pandémie, cette activité était complètement à l'arrêt. Pas plus tard que hier, la commission taxée, disait que 52 chauffeurs de taxi ont été en fait emportés par la maladie. Ensuite, les femmes qui font les tresses. Donc, la proximité physique que ce métier exige faisait que ce métier a été complètement pratiquement à l'arrêt aussi. Et il y a aussi les restaurants. Vous pouvez savoir que les restaurants ont été complètement fermés. Donc ce type de métier, ces trois en tout cas au moins, ont été importants pour la communauté africaine et ces métiers ont été les premières victimes pratiquement de cette maladie. Et donc ça a créé beaucoup de difficultés au niveau de la communauté.
Beaucoup d'Américains risquent d'être expulsés dans leur maison parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Est-ce que c'est la même situation?
C'est la même situation, comme je vous l'ai dit. Parmi les métiers que je citais tout à l'heure, il faut ajouter les gens qui vendaient aussi dans la rue, qui avaient comme principaux clients les touristes. Le tourisme a été arrêté à New York, par exemple. Donc, ça a été complètement un problème pour payer le loyer parce que les gens qui n'avaient pas de métier avec un salaire, avec un paycheck, comme on dit en anglais, qui vient tous les 15 jours, qui dépendaient de leur activité quotidienne pour prendre en charge les frais au niveau de la maison. Donc, quand on a eu effectivement ce paiement d'assurance chômage, ça avait vraiment beaucoup aidé et ça se sentait même au niveau des regroupements des Africains. Quand vous les fréquentez, vous vous rendez compte que ces gens-là n'ont pas les moyens d'avoir un boulot avec télétravail et autres, qui étaient complètement là, c'était vraiment quelque chose d'important, mais c'est devenu très très compliqué depuis que ce paiement a été arrêté, et on n'est pas sûr que le Congrès et la Maison Blanche vont se mettre d'accord encore pour reprendre, et dans quel terme, même s'ils devaient reprendre ce paiement.
Le journaliste Dame Babou joint à New York.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless. Peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne